Alors, si on fait le tri,
oui.
On a fait Akroma, il y a eu le Baron, et puis Machia. Vous savez, maintenant, tu te lances dans la musique de Jones. Tu fais du néo-metal et ça s'appelle Dusk of Delusion.
Ouais, c'est ça.
C'est né comment, ça?
C'est né d'une volonté commune avec donc Julien, le bassiste, de renouer avec la scène, hein, tout simplement, parce que, bon, Luca, on a cessé nos activités en 2014. Avec Elvaron.
C'est 8 ans, non? Tous les 8 ans, c'est ça? C'est du prog, hein?
Ouais, voilà, quoi. Avec Elvaron, bon, il y a la problématique de la restitution de la musique sur scène qui est très très compliquée.
Non, mais franchement, je crois qu'on avait parlé de l'info, on attendait Simakia.
Bah oui, mais à Simakia, donc, ben, bon, on en a parlé. En plus, j'ai eu Kevin au téléphone la semaine dernière, on en a parlé. On a envie de faire un disque, quoi, mais Thomas, le batteur, c'est compliqué, il n'est pas dispo.
J'ai vu son nom sur Séminole, non?
Ouais, voilà, il joue avec Séminole, il joue avec Deficiency, puis il habite plus du tout dans le coin, donc voilà, après je comprends qu'il ait des priorités. Voilà, on se pose la question avec Kevin, est-ce que c'est pertinent de faire un album sans Thomas? Certainement oui, mais du coup ça veut dire retarder un petit peu ce qu'on avait prévu.
À l'ère des échanges de fichiers et des machins, il n'y a pas moyen juste de voir à la fin, on met en boîte et puis next. Non, il y a encore
Même ça, il n'est pas prêt. Je pense que Thomas n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à le faire. Il n'est pas prêt à donner autant de temps. Parce que si Macia, ça va lui demander du temps, c'est sûr. Ouais. Si on part sur un truc, même sur un format court de 45 ou 50 minutes, je sais que ça va forcément être super technique, que ça va demander... voilà, si on veut faire les choses bien, il faut prendre le temps. Bon, je comprends qu'il n'ait pas le temps. Après, ça veut dire qu'avec Kevin, il faut qu'on... Ah, il faut qu'on se mette en quête de quelqu'un qui a envie de le faire, et puis pourquoi pas faire de la scène aussi, quoi.
Et dans ta créativité de l'année qui est passée, là, dans ton coffre au trésor, t'as des trucs simakiens ou...
Ouais, j'ai des trucs. J'ai des simakiens écrits, arrangés, tout prêt, tout propre. Voilà, je l'ai envoyé à Kevin justement pour lui dire voilà, bon, donc lui il avait le concept, il a les paroles pratiquement. Voilà, je lui ai envoyé un truc, je lui ai dit, bon, est-ce que ça te convient comme direction? Voilà, on a trouvé un bassiste.
C'est quand même comment ça structurer.
Ouais, voilà, et puis après on s'est dit, bon, bah, on y va, quoi. Et puis j'ai demandé à Thomas, il m'a dit, écoute, non, je vais pas avoir le temps, cette année ça va pas être possible. Donc je sais pas, faut qu'on
en discute. Ça fera partie des vœux de fin d'année 2018
ouais.
Pour la suite.
Ouais, ouais.
Et donc, voilà, donc Dusk of Delusion. Donc vous avez dit ok, on veut faire de la scène.
Ouais.
Et donc là à un moment on se dit voilà quelle direction artistique on prend. Voilà, tu sais que tu as touché dans une palette assez large.
Ouais.
Du
rock au black metal.
Ouais, voilà. Et donc pourquoi cette orientation un peu voilà, soit très moderne, plus néo ou pas néo.
Ouais, ou... enfin, peu importe l'étiquette qu'on lui donne. Hein, il fallait qu'on donne une étiquette à un moment donné. Donc.
C'est-à-dire que t'es parti sur du matériel que t'avais ou tu tiens, c'est une chanson, un truc comme ça ou...
Non, bah après c'est plus Julien au départ, le bassiste qui a composé, donc lui il avait des trucs en réserve, quoi, sans forcément avoir des trucs structurés, mais il avait des trucs. Il voulait que ça soit super groovy, que ça soit percutant, il avait vraiment une vision claire du type de musique qu'il voulait faire. Donc après, moi, j'arrive derrière, je pose ma guitare, mon ressenti sur le morceau, et puis moi aussi, je travaille des morceaux de mon côté. Et puis, on est arrivé à quelque chose, voilà. On voulait pas que ça soit trop technique, parce qu'on voulait pas, on voulait privilégier l'énergie sur scène, sans forcément être obligé de, comme dans Elvaron, d'être le nez sur le manche pour savoir exactement ce que tu fais.
Ou sampler, ou devoir passer
voilà.
Par un truc.
Donc, même si ça reste une musique qui est relativement travaillée, hein, mais c'est simple et efficace, quoi. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire.
D'accord. Donc, vous êtes tous les deux, ok, on commence à avoir des beats, toi ça te parle,
ouais.
Tu commences à créer, vous échangez, puis à un moment on dit, bon, ok, on est deux, comment passer l'étape suivante. Et donc là, c'est quoi? Vous tapez dans le réseau
Ben, disons qu'on avait déjà une idée précise du batteur avec qui on voulait travailler, puisque Romu, voilà, était, c'est quelqu'un qu'on côtoyait de manière sporadique, mais assez, voilà. Je savais qu'il était prêt à faire quelque chose avec nous sur une direction. Un peu, on avait évoqué des noms comme Avenged Sevenfold, Killer Be Killed, des choses comme ça. Donc lui, ça lui parlait. Il vient de ça, hein, de Korn, de Slipknot. Et puis, on a commencé à bosser à trois. Alors, on s'est posé brièvement la question de savoir si on allait faire en power trio. Puis, ni moi ni Julien n'avions envie de chanter. Donc, voilà, il nous a dit, bah écoutez, moi, j'ai bossé avec Benoît sur un autre projet, sur Redline. On peut faire un essai avec lui. Donc, on a fait un essai avec Benoît.
T'as déjà fait du X-Fan, toi, du chant X-Fan?
Non, pas du tout. Non. Non.
Vous l'avez envisagé de le faire en chant clair, ou c'est plutôt le chanteur que vous amenez à passer sur un chant et,
bah, je sais que Julien avait envie de cette dualité du chant un peu à la fois scream, à la fois clair. Voilà, ça s'est fait assez naturellement en fait. Quoi. Il est venu, il a proposé ses idées, on a dit ouais, c'est cool, ça nous parle, c'est sympa quoi. On va aller dans cette direction, et puis on a répété pendant plusieurs semaines comme ça, sur 5-6 titres. Et puis on s'est dit ah ouais, il faut une deuxième guitare quoi, si on veut quelque chose qui soit à la fois visuel, équilibré.
Bah, si vous avez la scène en tête, à un moment, il fallait un peu de, aussi de.
Et puis moi j'avais envie de
un rythmique et un lit quoi.
Ouais. Et puis j'avais envie aussi d'un moment donné explorer des pistes un peu plus harmonisées à la Maiden ou à la Fevium, à la In Flames, des choses comme ça quoi.
D'accord. Ok. Et toi sur tes goûts perso, Slipknot Korn, ça te parle ou?
Bah Slipknot beaucoup. Après Avenged Sevenfold énormément.
D'accord.
Moi, je suis un gros fan de la Avenged Sevenfold.
C'est une génération plus tardive entre guillemets.
Ouais, bien sûr. Ouais. Après, moi je me souviens quand même qu'en 94-95, quand Korn s'est arrivé, voilà, on se l'est pris aussi en pleine gueule avec tout cet apport sur la production. Quoi. Je veux dire, c'était le début des groupes surproduits. Quoi. Je me rappelle moi de potes qui me disaient « Achète le dernier album de Korn, tu vas voir le son. » C'était la première fois qu'on disait ça d'un disque.
En fait. Hyper compressé, voilà. Hyper, ouais.
C'était achète l'album pour le son. Ouais.
Même la musique, on s'en fout, c'est juste la production qui arrive dans le
son. Et ça a été l'escalade dans les années 90 du son. Quoi.
Bon. Parce que même si c'est un groupe qui a un statut un peu étrange, genre, bah, sur la veine en France, on voit le mémoire, ils sont en tête d'affiche d'une des journées du Hellfest. Mm-hmm. Donc on voit, il y a les très classiques, Judas, Maiden, enfin, tu vois, il y a des super grands noms, puis tu vois Avenged, tu dis, ah ouais, c'est. Enfin, tu les mets pas au même niveau, ce qui est logique. Et pourtant, bon, ils ont leur public, ça permet aussi donc moi, voilà, je voulais.
Bah, je pense que. Ouais, moi, je pense qu'Avenged Sevenfold, en fait, c'est un des rares groupes qui a le potentiel, enfin, c'est que mon avis personnel, hein, mais qui a le potentiel pour être aussi gros qu'un Metallica, quoi, à terme.
D'accord.
Après, on verra si l'histoire me donne raison, hein, mais.
Ils ont déjà des péripéties dans leur histoire de groupe.
Ouais,
assez particulier.
C'est presque analogue finalement. Hein,
des drames,
le décès d'un membre du groupe, il y a des parallèles qui peuvent se faire. Et puis les mecs aux États-Unis, ils font des stades, hein, clairement. Donc. Peut-être qu'à terme, enfin pour moi, voilà, je me suis longtemps dit des groupes comme Maiden, Metallica, ça n'existera plus. Et puis voilà, finalement, pourquoi pas.
Il y a quand même pas beaucoup de grands noms qui émergent. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont tous un peu moyennes.
Ouais.
À voir. Donc vous aviez déjà une dizaine de titres au moment de constituer l'année complète, ou vous étiez encore en phase de.
Alors peut-être pas une dizaine, mais une demi-douzaine, on va dire.
D'accord. Donc vous êtes arrivé à fixer un line-up 5.
Ouais.
Et donc là vous avez accéléré en disant.
Ouais. Là on s'est dit bon maintenant on est 5, ça joue. Si on veut aller sur scène, il faut au moins qu'on puisse assurer une demi-heure, 40 minutes de musique. Donc on a continué à écrire des titres. On a beaucoup maquetté aussi.
Ça reste toi et ton basse.
Non, bah tous les cinq. Tous les cinq. Cinq ouais. Ouais. On a beaucoup maquetté parce que. Ah, ça permet d'avoir aussi une vision claire de ton titre, hein, parce qu'en répète c'est bien, mais les répétitions, si le son n'est pas précis, ça tourne, c'est pas propre, quoi. donc ça nous permet d'avoir un recul, après de travailler des arrangements, que Ben, ça lui permet de poser vraiment ses voix, etc.
C'est tout ça, c'est chez toi, là, Elvar Hansden,
Elvar Hansler, ouais, c'est mon studio, ouais. Mais
d'accord. Studio, et donc là, vous retrouviez physiquement, et puis vous avanciez étape par étape.
Ouais.
Et est-ce que par rapport à d'autres projets que tu as pu avoir, où on avait quand même plus l'impression que tu bossais en solo et après les autres se greffaient dessus,
ouais.
Là, pour une peut-être première fois depuis un petit moment, vous étiez en mode groupe.
Ouais, exactement, ouais. Alors, même si on n'est pas encore dans une dynamique de composer tous les cinq en répétition, mais peut-être ça viendra, mais on est déjà plus dans une dynamique participative où Claude a apporté ses arrangements, Ben a pu de manière totalement libre écrire ses lignes de voix, ses mélodies, ses paroles. Romu a pu écrire ses lignes de batterie. Nous, on est venus effectivement avec les ossatures, les structures, on va dire, et puis les autres se sont greffés dessus.
Si tu l'avais déjà connu dans le passé, ça te manquait, c'était plus gros.
Ah ouais,
ou t'es plutôt en solitaire ou
ça me manquait pour moi. Enfin, j'ai eu diverses phases.
C'est soit toi tout seul, soit en binôme avec quelqu'un, ouais. Mais ouais, difficilement un espèce de bloc où on avait du mal à. Enfin, incohérent, c'était toujours. T'émergeais, vous étiez deux à émerger.
Oui, je sais bien. Après, j'ai eu plusieurs phases dans mon écriture. Il y a des moments où j'ai eu besoin d'être seul pour écrire. Des moments où je me rappelle au début d'Elvaron ou même dans les 4-5 premières années où on écrivait toujours de manière collégiale et puis du jour au lendemain où je me suis retrouvé à écrire tout seul. Dans Akroma c'est pareil, j'ai toujours écrit tout seul parce que
il n'y a pas un côté contrôle fric où je peux pas lâcher le truc, c'est par obligatoire, par devant les événements,
j'ai pris la main parce que si je la prends pas, personne la prend, quoi.
Ça avance et pour toi même il faut que.
Et puis après, j'ai un besoin de création, quoi. J'ai besoin à un moment donné de créer. Donc s'il n'y a personne pour créer avec moi, je crée, mais tout seul.
D'accord. Et t'arrives à t'accorder avec les autres, à dire ça j'enlève, allez, ok, ton suggestion elle est intéressante,
on l'entend. Ouais, on a un fonctionnement en tout cas dans Deus qui est très démocratique, on a un système de vote qu'on met sur notre discussion Facebook, voilà, ça c'est soumis à vote, si c'est voté, c'est voté.
Il y a une histoire particulière derrière le travail du nom.
C'est-à-dire
Deus comme Dilution, il y a une histoire, c'est un truc, une expression que vous trouviez intéressante ou c'est venu d'où?
Ça a émergé, c'est vrai que le nom du groupe on a mis longtemps à le trouver, mais ça a émergé de discussions, on voulait déjà un nom qui soit unique, qui soit pas pris par un autre groupe, donc déjà ça élague vachement les possibilités.
Quand on tape sur internet et trouve le finlandais, l'américain,
voilà, exactement, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui portent les mêmes noms, et puis moi je voulais un truc assez avec un K dedans, qui soit assez avec une vraie consonne. Bon, après il se trouve que Dusk, après ça me résonne aussi avec Dusk and the Embrace de Cradle, qui est vraiment mon album préféré, et puis c'est venu de discussions, mais pas avec un but précis au départ.
En termes de calendrier, tout ça, ça a pris combien de temps? Enfin, ça s'est étalé sur quelle période temporelle?
Disons que ça a pris, on va dire, 12 mois pour finaliser les titres, les avoir éprouvés sur scène.
Non, t'as pas pris un si long break que ça par rapport à la scène?
Non, après, tout dépend de ce qu'on juge comme étant de la scène, quoi. Après, Akroma, on fait pas de scène, mais là, on en a mis fin à nos activités en 2015. Et j'ai parfait de scène. Après, j'ai joué dans un autre groupe.
Non, mais
j'ai
l'impression par rapport au précédent Akroma. On s'était vu il y a un an pour le
Akroma, mais Akroma, on fait pas de scène.
Oui.
Donc on n'a pas cette problématique de
mais,
la scène.
Mais même au niveau studio, t'as enchaîné quand même assez vite le dernier Akroma jusqu'à.
Ah oui,
t'enchaînes tout de suite sur deux
scènes. Après, c'est. Ouais, après, je fonctionne comme ça. J'ai toujours un truc sur le feu, quoi.
D'accord. Ou pas. Là aussi une question qui peut paraître un peu béotien, mais donc t'as quand même, tu commences à avoir quand même pas mal de bouteilles, t'as ton propre studio, donc je pense que tu as bien la main dans le cambouis et tu commences à quand même toucher ta vie. quelle est pour là aussi quelle est la valeur ajoutée de faire assurer le mastering par Magnus Devo Anderson, qui est en scandinave vu son nom.
Bah, c'est le bassiste de Marduk. Hein.
Voilà. Pourquoi solliciter ce genre de il t'apporte ce que toi tu peux pas faire.
Ouais. En termes de compétences, moi j'ai pas la compétence de faire un mastering. J'ai la compétence et les matériels pour faire de la prise de son, du mixage, de la production. Mais à un moment donné, le mastering c'est vraiment l'étape finale. Et pour moi, j'ai pas les compétences, j'ai pas le matériel pour le faire. Donc je préfère me dire. Et ça nous permet aussi d'avoir un œil complètement extérieur. C'est-à-dire que si en plus je fais le mastering, ça veut dire qu'à aucun moment il y a une oreille extérieure à
la mienne. Il ne va pas dire je te fais ton mastering, c'est à chier, mais je te fais ton mastering, j'en ai la faute.
Après, tu es dans une relation commerciale, faut bien le dire, que ça lui plaise ou pas.
Il va te le faire, pour toi.
Ouais, voilà, il va te le faire, quoi. Mais Claude le connaissait parce qu'il est parti en tournée pendant 5 semaines avec Marduk sur la tournée européenne en 2012.
Et donc, c'est vraiment un métier, enfin, c'est une activité très particulière.
Ouais.
Et ça peut faire la différence entre un son qui ressemble à rien et un album qui sonne.
Ah ouais, ouais.
Donc, tu foires ton mastering, tu peux avoir le disque de l'année, on s'en fout. Enfin, ça peut plomber bien le truc.
Ah ouais. Moi, je me rappelle, pas sur ce projet-là, mais sur la Horde, on avait fait des tests mastering dans des studios. Tu reçois un truc, tu te dis mais le mec il a de la merde dans les oreilles ou quoi, il veut nous tuer quoi. Voilà, c'est ça que tu te dis, mais c'est pas possible d'arriver à un résultat pareil quoi. Donc ça peut sublimer ta production. Alors ça fait pas de magie.
Oui, si c'est de la merde, ça restera de la merde.
Si ta musique est merdique, ta musique sera merdique mais plus belle, plus forte, avec des plus belles basses, mais ça sera quand même de la musique de merde. Si ton mixage est bon, si ta prise de son est bonne, si ton mixage est bon, le mastering ça va vraiment sublimer le truc. Mais nous, il faut toujours proportion garder quoi. On n'est pas dans la course au son, on n'est plus dans la course au son. C'est plus attaqué, tu vois, à 0 dB, tout est à fond. Non, c'est fini ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était à la fois conserver nos nuances, notre dynamique.
Avoir tout ça, tu l'expliques au mec ?
Ouais, bien sûr. Ouais. Je lui dis, voilà, nous, on veut, c'est très simple, je lui dis, voilà, on veut conserver nos nuances, on veut conserver notre dynamique. On veut plus de profondeur sur telle fréquence, on veut que ça ressorte plus, mais dans un mastering, tu peux refaire sortir, si tu veux, plus les guitares, plus la grosse caisse.
Donc on en arrive à, c'est un cuisinier, tu files les ingrédients, tu lui dis comment il cuisine, c'est la recette, à la fin, fais-le toi.
Mais oui, mais
si tu lui dis que
il faut avoir du matériel pour le faire.
Ouais, mais ça, c'est hors de prix ou c'est juste que tu le sens pas ou tu fais pas.
Au-delà du matériel, c'est un savoir-faire. Ça va se faire à l'oreille. C'est-à-dire que moi, il y a des subtilités de travail sur les fréquences que je ne connais pas.
D'accord.
C'est jusqu'où tu peux pousser une basse fréquence entre, très technique, mais entre 20 et 120 Hz, c'est-à-dire là où tu as ta fréquence de la basse, la fréquence vraiment grave de la basse. Jusqu'à combien de dB tu peux la monter ? Quel est le seuil de tolérance par rapport à un système de son, quand le mec il va écouter sur son portable ou quand il va écouter sur sa chaîne IFI, quel va être le seuil de tolérance dans les aigus, pareil, comment tu compenses, c'est un vrai métier. Autant le mixage, je fais du mixage et de la prise de son depuis que j'ai 14 ans quoi. Donc je connais maintenant, je sais quel micro utiliser, je sais comment faire une prise de son, je sais comment mixer, je sais comment faire en sorte que mes instruments ils sonnent clairs, parce que j'ai une vision, je sais comment faire. Mais le mastering pour moi c'est trop précis pour moi, j'arriverai pas.
Et imaginons, dans un monde idéal, t'as une année sabbatique et ça t'intéresserait pas de te mettre.
Je me dis tiens, je vais faire une formation avec bidule chose pendant 2 semaines et puis je saurai faire du mastering.
Donc tous les groupes que tu accompagnes ou tes groupes, tu veux dire soit aller jusqu'au produit quasi final hors mastering.
Ouais, voilà, c'est ça. Et après le mastering, c'est vraiment intéressant d'avoir une oreille extérieure. C'est le seul moment en fait, dans le processus où tu vas avoir quelqu'un qui ne connaît pas ta musique, qui n'a jamais écouté, qui ne sait pas comment tu mixes, et c'est le seul moment où tu vas avoir quelqu'un qui va peut-être te dire mec, bah là, tes guitares elles sont trop fortes, ou là, bah, tes guitares elles sont.
Et à Magnus Devo Anderson, tu peux lui envoyer le baron comme lui envoyer Dust,
oui.
Ou faut que je choisisse les mecs par rapport au style que tu veux.
Bah, après, en fait, quand tu envoies au mastering, tu donnes des titres références. Et lui, il va se baser un peu sur un spectre sonore. Voilà, si tu lui dis, moi je veux que mon album il sonne plus comme le dernier Metallica, il va te faire un mastering qui va se rapprocher du dernier Metallica en termes de fréquence, d'utilisation des fréquences. Parce que c'est que ça, hein, c'est du jeu des fréquences et de la compression dynamique qui va augmenter ton son jusqu'à un certain seuil.
Oui, tu aurais appris un truc, pour moi c'était production, produit par, mixé par, puis mastering par, c'est pareil. Oui.
Après, le...
Enfin, je pensais que mixage et mastering, c'était lié.
Alors,
or, ça peut être complètement découplé.
Oui, ouais, il y a des gens qui font mixage mastering en même temps. Ah. Qui en fait, en bout de chaîne de leur table de mixage, ont une tranche de mastering directement.
D'accord. Ils ont paramétré leur truc.
Voilà, c'est un choix.
Alors, comme donc vous avez à nouveau pour le visuel qui est là aussi très réussi, donc toujours la problématique de, enfin la problématique de fête foraine, un titre par un peu une ambiance, enfin. Mm-hmm. Vous avez bossé avec Chromatorium,
mm-hmm.
donc il y avait fait pour ceux qui ne connaissent pas la scène de la Chroma.
Oui.
Et donc là, par contre, vu le à la fois le. Il y a eu tout le concept qui était défini, les paroles. Là, vous avez dit extrêmement directif sur ce que vous dites.
Ouais, on a donné un cahier des charges vraiment très précis de ce qu'on voulait.
Et il est mentionné que tu es intervenu en moins. Enfin, t'as fait le.
Alors, moi, j'ai fait le livre, enfin, le reste du livret. C'est-à-dire que lui, il nous a fait. La première, la cover est en fait, elle est en paysage quand tu l'ouvres. Et moi, j'ai fait le reste, c'est-à-dire l'intérieur du livret et l'intérieur du digipack. Quoi.
D'accord.
Voilà. Mais c'est plus de la mise en page. Hein. Moi, j'ai pris mon fond, j'ai mis mes textes, voilà, j'ai incrusté la photo. C'est pas non plus.
Tu as dit sur les paroles, a priori, donc les paroles c'est écrit par votre chanteur, sont rédigées par votre chanteur, mais pas sur les concepts du bassiste.
Voilà,
c'est compris. Pourquoi ton bassiste n'a pas tout fait ? Il se sentait pas en danger ? Ou c'est important que le chanteur
écrive les paroles c'est, ou... Pour moi, c'est super important qu'un chanteur écrive ses textes. Il n'y a pas de règles, hein, mais je pense que pour qu'un mec s'approprie vraiment ce qu'il chante, il faut qu'il les ait écrits. Quoi. Donc, puis c'est plus sain, je trouve. C'est plus sain qu'un chanteur il puisse s'exprimer aussi, finalement, dans sa création, quoi, dans sa créativité.
D'accord. Pour attaquer justement cette partie promo, donc vous avez sorti un clip pour White World. Il y a d'autres choses qui sont prévues dans ce domaine-là ou...
Alors, on fait une release party, comme on dit maintenant, un vernissage vendredi. Donc là, on va proposer dans un bar, quoi. Donc là, on va proposer un petit show acoustique. On va jouer 4 de nos morceaux en acoustique. On a en projet de, au mois de mai, de réaliser un deuxième clip. Alors, faut voir évidemment, parce que tout ça. Ben voilà, ça coûte de l'argent hein, de réaliser des choses, hein, malheureusement. Donc, si on a de l'argent et si on a. Voilà, on a une volonté de faire un deuxième clip au mois de mai ou au mois de juin. Et puis voilà, après on a des dates de concert de prévues pour assurer la promo derrière.
Si là, juste sur cet aspect-là, tu mets ta casquette de patron de label, c'est important d'être présent sur YouTube, d'avoir des trucs, des vidéos, des prises sur concert, etc. Ça reste un médium de promo important ?
C'est primordial, quoi. C'est primordial. Je veux dire, aujourd'hui, malheureusement, hein, un groupe qui n'a pas de clip, c'est un groupe qui n'a aucune visibilité.
C'est sur YouTube, je tape le nom du groupe et j'y ai rien.
Ouais,
c'est un peu, ça devient compliqué.
Ça devient compliqué, ouais.
D'accord.
Parce que les habitudes des gens, et surtout des jeunes, elles ont sont plus du tout celles qu'on avait nous à notre époque. Quoi. Aujourd'hui, les...
Parce que quand c'était dit, avant, il y avait, avant, ça se justifiait pour les groupes qui voulaient atteindre un certain niveau, parce qu'il fallait passer à la télé, c'était MCM, VH1, machin. Après, tout ça est mort, on s'est dit, bah, les clips, ça ne sert plus à grand chose, à part les groupes qui se font plaisir. Et là, on a l'impression que ça peut servir, mais vous êtes, c'est dans une nous, enfin, je ne sais pas combien de millions de trucs sont uploadés sur YouTube toutes les secondes. Donc, même si moi-même, ça me fait plaisir des fois de regarder un clip que je ne connais pas, mais je sais, j'avais du mal à mesurer à quel point ça devait être assez important.
Je sais pas si t'es... Enfin, on est de la même génération, mais moi je me souviens avoir découvert plein de clips sur Boulevard Rock'n'Roll par exemple.
Oui.
Donc est-ce que YouTube ça serait pas un espèce de Boulevard Rock'n'Roll puissance 10?
Ouais, mais tellement puissant. Il n'y a pas de sélection.
Ben non, je sais bien, mais après la sélection.
Je me souviens d'Iron Maiden, Big Quick Orbidez, c'était quoi ce type tout bizarre ou... Oui, bien sûr, mais il y avait un travail entre Kémé Tito, il y avait une sélection.
Ouais,
là, je suis une merde totale et je peux taper tous les noms du groupe qui se pensent à ce moment.
C'est la perversité d'Internet. Quoi. Après, les habitudes d'écoute maintenant des jeunes, c'est ça. Et en plus, ils vont pas écouter ton truc en entier, quoi.
Ah oui, ils vont zapper au milieu, ils vont zapper à la fin, et puis hop.
Enfin, moi, quand je suis en voiture avec le jeune homme, là, et que toutes les minutes, il va changer de chanson, mais je te deviens fou, quoi.
D'accord. C'est une autre façon de consommer le truc.
Ouais, alors malheureusement, j'aime pas ce terme de consommation, quoi.
Ce zapping.
Ouais, je... Je sais pas, je comprends pas. Moi, mon fils, il passe des heures à regarder des vidéos de mecs qui jouent à des jeux vidéo, quoi. J'arrive pas à comprendre. Ouais, pourquoi tu joues pas, quoi?
Enfin, je pense que on a eu connu la même chose. On arrivait à la fin, qu'il y avait un grand bac, qu'il y avait des bandes d'écoute, et il y avait 5 scouts, c'est pas ce que c'était. T'allais dessus, t'avais pas non plus 3 heures devant toi,
ouais,
et donc tu dis, tiens, j'écoute, j'avance un peu,
ça me plaît.
Ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît.
Ouais.
Je pense que c'est un peu ça, mais fois, je sais pas combien. Donc,
c'est ça.
Sauf qu'il y avait la sélection du vendeur,
entre guillemets. Ben là, il n'y a plus de sélection du tout. Alors après, peut-être qu'il y a une sélection qui peut se faire à travers de chaînes YouTube, j'en sais rien.
Je connais pas, je suis peut-être pas assez...
Non, mais moi je passe pas assez de temps sur YouTube. Enfin, j'essaie de... Enfin, c'est paradoxal, parce que je suis dans le truc,
avec les Norman, je sais pas, enfin les YouTubers stars, mais je sais pas qui c'est, moi.
Ouais,
quoi, dans le maquillage,
Je suis très éloigné en plus de tout ça, mais enfin,
toujours avec ta casquette de patron de label.
Ouais.
Un truc comme Deezer pour toi, c'est une bénédiction ou c'est une malédiction?
Ah bah pour moi c'est je trouve que c'est bien. C'est alors une bénédiction, je sais pas, mais tout est un peu pervers dans Internet. C'est d'un côté effectivement c'est super parce que ça offre une vitrine à tous les artistes du monde pour être présent quelque part et d'être potentiellement écouté par l'intégralité de la planète. Après on revient au même problème, c'est-à-dire comment tu fais un choix, après
il met plus des cacao.
Ouais, non mais
enfin, il faut je sais pas combien de milliers d'écoutes pour toi t'es 3 francs, quoi.
Après, nous, on n'est pas dans une... Enfin, c'est pas notre métier. On s'en fout. On n'est pas dans une dynamique où on cherche à faire de l'argent ou à faire du profit. On est vraiment dans une... Enfin, après, je te dis ça, mais tu vas me dire, oui, mais vous vendez vos disques.
Non, mais là-dessus, je suis toujours plus loin, c'est que je pourrais dire, moi, en tant qu'utilisateur lambda, je trouve ça très bien, super.
Ouais.
Sauf que je me mets à la place de l'artiste, et puis je me dis, oui, mais moi, je touche que dalle.
Ouais, après, c'est des débats que j'ai régulièrement avec, que ce soit la SACEM, la Spedidam, la Dami, sur comment moi, en tant qu'artiste interprète, je suis obligé de fournir à la Spedidam mes relevés de vente de mon distributeur parce qu'ils n'ont pas de logiciel qui vont traiter les artistes indépendants comme moi. En gros, si tu as moins d'un million de vues ou moins d'un million d'écoutes sur ton titre, tu passes même pas dans leur filtre. Moi, je trouve ça scandaleux.
Bah, surtout que c'est cacao. Enfin, c'est en termes de logiciel, c'est pas fou. Enfin, c'est pas...
Ouais, alors soi-disant qu'ils développent avec IBM un système de machin. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils disent certainement au mec qui se fait chier. Alors, c'est pareil, pour avoir quelqu'un. Moi, il a fallu que je gueule, que j'aille aux réunions de machin. Bref, je te passe les détails. Mais voilà, maintenant, je leur envoie tous les trimestres mes relevés de vente pour qu'ils me calculent. Moi, c'est une question de principe. Même si je gagne 10 balles,
oui, mais moi,
voilà, je veux mes 10 balles. Je les ai pas volées, quoi. Et j'estime que c'est pas normal qu'on les donne au prorata de ceux qui sont le plus écoutés.
Et dans la continuité, je regardais le site du label Fantasy.
Oui.
Alors je sais pas si c'est tout à fait mis à jour, mais il y a un tiers de ton catalogue qui est pas dispo. Sold out.
Ouais.
Il y en a 7 sur 20 ou un truc, enfin, à peu près un tiers.
Ouais.
La solution, c'est la digitalisation ou c'est toujours la problématique des droits liés à faire bad mal. Non, tu m'as dit que tu as récupéré les droits.
Moi, j'ai récupéré les droits, mais digital.
Ouais.
Après, le stock.
Oui, donc ça, tu m'as dit stock.
Voilà, le stock qui est existant, il a été
tu soit vendu. Tu continues à vendre tes vieux trucs, enfin tes vieux albums, par des plateformes diverses et variées.
Ouais, mais après, moi, j'ai plus de. Par exemple, je prends l'exemple du premier album d'Akroma. Moi, je n'ai plus de stock. J'ai vendu tout mon stock. Je n'en ai plus. Donc, aujourd'hui, si je veux revendre du Akroma physiquement, il faut que je represse.
Voilà. Donc, ta solution là-dessus, c'est pas de proposer au digital ?
Elle est proposée en digital. Tout mon catalogue est disponible en digital. Demain, si tu veux écouter le premier album d'Akroma,
je peux pas l'avoir en physique,
voilà.
Mais je peux l'avoir en digital.
Tout à fait. Alors,
donc, l'aspect du un tiers est sold out, c'est trompeur en fait.
Mais moi je l'avais pas vu dans.
Tout est disponible, mais pas au format physique.
Ouais, et ben il faut que je. Et ben il faut que je.
Fasse
quelque chose pour communiquer.
Tu vois, il y a peut-être un sold out, tu rajoutes un truc, mais le lien vers
le digital.
Moi je pourrais dire, j'avais l'impression de dire ça je peux pas avoir, ça je peux pas avoir, ça je peux avoir. Après, effectivement, sur les trucs de vente, t'arrives à trouver, mais à des prix débiles. Donc.
Effectivement, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que jamais je me suis dit, tiens.
Moi je me dis, je veux sa musique et je veux qu'il en profite, donc je lui file de la thune à lui. Si je fouille pas, j'ai l'impression que c'est soldat, merci, au revoir.
Je vais changer ça.
D'accord.
Je vais bosser là-dessus.
Et une dernière chose, pour revenir quand même au sujet, Dusk of Delusion, c'est quoi? C'est un pied à étrier ou c'est un projet pérenne, ou t'en sais rien, ou vous verrez
J'espère que c'est un projet pérenne, parce que finalement c'est le seul groupe avec lequel je fais de la scène, quoi. Et maintenant que ça fait pratiquement 30 ans que je fais de la musique, je me dis que qu'est-ce qui vaut le coup finalement? C'est la demi-heure que tu vas passer sur scène.
Et vraiment, dernière question, tu as toujours un coup d'avance, c'est quoi la suite? Si tu peux en parler ou pas?
Très concrètement, on travaille sur le prochain Elvaron.
D'accord.
Et on travaille avec Adeline Gürtner, qui est une ancienne chanteuse d'Akin, donc un groupe de Lyon des années 90-2000, qui avait collaboré avec moi sur le premier Akroma et qui va être notre chanteuse à plein temps.
Sur tes deux assorties de l'année, donc la première c'est Dusk, la deuxième c'était ce que j'ai fait ça?
Ça sera.
Tu peux déjà dire ce que c'est?
Ça sera Elvaron.
Ça sera Elvaron.
Ouais, mais pas cette année.
D'accord.
Ça sera pas en 2018, ça c'est sûr.
Donc là, t'as plus de sorties sur ton label, sur cette année?
Pour 2018, non.
Non.
Sauf un coup de cœur sur un. Parce que je reçois de plus en plus des marchés par des groupes, de vraiment même de partout dans le monde. Si j'ai un gros coup de cœur dans les semaines ou les mois à venir, pourquoi pas faire une sortie en octobre ou en novembre, mais bon, ça serait pas sur un truc que j'aurais écrit, quoi.
Ouais, de toute façon tu t'es recentré sur tes projets à toi. Parce que tu disais, la dernière fois, tu disais que c'est les deux groupes qui t'avaient signé à l'extérieur, qui sont plus chez toi.
Ouais, voilà, après, Deficiency sont plus chez moi parce que le label a été un tremplin, ils ont signé sur un plus gros.
On t'a fait record.
Voilà, tant mieux.
Et Deadman, tu m'as dit,
Deadman, après, je sais pas, les mecs, ils m'ont fait à l'envers, quoi. Ils ont sorti un EP de leur côté sans sortir sur mon label.
Ouais, finalement, de disque à eux, t'as rien sorti, c'est ton nom.
Juste en digital, j'ai sorti leur premier EP là. Puis voilà, les mecs, sans plus d'explications, puis du jour au lendemain, j'ai reçu un accusé de réception, nous voulons mettre fin au contrat.
Toujours focus sur tes projets, sauf méga coup de cœur.
C'est ça. Sauf méga coup de cœur, ou si Deficiency veut revenir chez moi.
Oui, parce que tu gardes la problématique Lorraine.
Ouais, dans un premier temps. Après, je pourrais peut-être m'étendre à la France, mais je reçois beaucoup, beaucoup de choses d'Amérique du Sud ces derniers temps, de Russie, Biélorussie. Mais bon, moi, c'est des artistes. Enfin, je préfère leur dire que je les signe pas plutôt que de les travailler mal, quoi.
Ouais, bien sûr.
Donc, puis c'est pas les servir. Et bon, puis souvent je reçois des choses qui, les gens pensent encore naïvement que j'ai une capacité à sortir 25 000 euros pour produire leur album en studio et tout ça, donc ils sont pas vraiment dans la réalité du business, quoi.
Et quand même juste dire un truc, il y a des dates qui arrivent au concert, donc c'est Facebook qui est le site qui est le,
tout à fait,
pour avoir la totale.
Super. Donc du 21 au 28 avril on sera en tournée en France, Belgique et Suisse.
Génial, c'est une perspective. À bientôt.
Merci Christophe.
Ciao.